Voilà, nous allons prendre la Bible dans Jean 4. Jean 4. Voilà, Jean au chapitre 4. Au verset 30. Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc Jésus répond aux gens qui lui proposaient la nourriture physique. Il dit, j'ai une autre nourriture à manger. Et quand on lui demande des explications sur cette nourriture, il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Donc, ma prédication de ce soir, c'est méditer, réfléchir au pourquoi de notre existence, pourquoi de notre salut en tant que chrétien, pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi sommes-nous sauvés. C'est important de réfléchir à toutes ces choses, pourquoi nous sommes hommes et nous sommes sur la terre. Et Jésus-Christ, l'une des clés de sa réussite, c'est qu'il méditait sur ces choses-là. Il ne s'est laissé pas avoir toute part les besoin de ce monde, les réalités de ce monde. Il était concentré sur l'objectif de Dieu pour sa vie. Il était concentré. Et dans Jean 12, il va faire la même méditation encore semblable. La Bible dit, Jésus-Christ a commencé à trembler par rapport à la suite des événements. Et il a dit à son père, « Père, est-ce que je dois reculer ?» Mais non, si je suis venu, c'est parce que je suis venu pour être sacrifié, donc je ne peux plus reculer. Il a médité sur la raison de son existence. Il y a des moments où on a besoin de réfléchir sur cela, de réfléchir sur qui tu es, quelle est la mission de Dieu pour toi, qu'est-ce que Dieu attend de toi. On a besoin de méditer et je peux dire qu'on en a besoin chaque jour, puisque Jésus a qualifié ça de nourriture. Or, la nourriture, nous la prenons chaque jour. Eh bien, chaque jour, nous avons besoin de nous réveiller, de nous poser ces questions. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et pourquoi suis-je là? Pourquoi je vis encore et que je suis chrétien? Qu'est-ce qu'il attend de moi dans la place qu'il m'a confiée dans cette organisation spirituelle? Qu'est-ce qu'il attend de moi dans ma famille physique, par rapport aux enfants, par rapport à mes parents, par rapport aux cousins, aux cousines? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Nous avons besoin de réfléchir sur cela. Parce que les choses de ce monde, les activités que nous avons dans ce monde, peuvent tellement captiver notre attention, emprisonner notre attention, qu'on risque de passer à côté de la mission de Dieu pour nous. Et quand on est à côté de la mission de Dieu, la conséquence c'est quoi? C'est qu'on n'a pas non plus l'autorité de Dieu. On ne va pas la vivre. On va faire des choses sans Dieu puisqu'on n'est pas dans sa mission, on n'est pas dans son œuvre, on n'est pas dans son chemin. Donc on va faire des choses, mais Dieu ne sera pas avec nous. Et conséquence c'est quoi? Il y aura des problèmes, on va pleurer, on va souffrir. Et aujourd'hui, beaucoup de gens viennent dans les églises pour chercher quoi? Pour chercher la solution à leurs problèmes. La solution aux problèmes d'enfantement, mariage, projet. La solution aussi aux problèmes Il y en a qui veulent trouver un sens à leur vie. Mais pas un sens comme la Bible l'entend, mais puisqu'à l'église, on donne de l'importance à tout le monde, même si on est rejeté ailleurs, à l'église, on est censé être accepté, être aimé. Alors beaucoup viennent aussi dans cette optique-là en se disant, bon, partout ailleurs je suis rejeté, à l'église au moins, je vais trouver des gens qui vont m'aimer, qui vont me supporter. Mais c'est un projet qui est humain, qui est terrestre, ce n'est pas un projet qui est spirituel, même si c'est ce que Dieu veut que l'Église fasse, mais toi qui viens pour être accepté, pour être aimé des hommes, pour trouver un sens, un goût à ta vie, parce qu'à l'Église c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile, tu te trompes. Ce n'est pas comme cela que tu vas trouver un sens à ta vie. Le sens à ta vie, tu le trouveras dans la méditation de la parole, dans la méditation avec Dieu, de ce que lui l'attend de toi. C'est comme ça que tu trouveras ton sens. Ce n'est pas dans les yeux des autres, ce n'est pas dans les bouches des autres que tu trouveras un sens à ta vie. Ça sera dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te parler à travers sa parole. C'est pourquoi le Seigneur nous donne encore un autre conseil dans Josué 1:8. Il nous dit que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin de pratiquer, de vivre selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc même le Seigneur nous dit médite la parole jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'en méditant la parole, c'est là que Dieu nous parle, puisque c'est sa parole. Donc lui, il n'est pas humain, physique, comme ça, pour qu'on le voit, pour qu'il nous parle. Donc il a parlé dans sa parole, la Bible, et c'est ainsi qu'il continuera toujours à nous parler. Donc en méditant jour et nuit la parole, Dieu nous parle. Et quand il nous parle, nous savons pourquoi nous sommes là. Nous savons pourquoi tel événement est arrivé. Nous savons pourquoi il y a un autre incident qui s'est produit. Parce que Dieu nous révèle l'avenir à travers cet incident-là. Dans la communion avec Dieu, à travers la méditation de sa parole, ben, nous connaissons quelle est sa volonté pour nous. Et en connaissant quelle est sa volonté, comme c'est écrit dans Josué 1:8, en vivant fidèlement selon ce qui est écrit, et ben, conséquence, c'est que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous venons vers Dieu avec nos entreprises, nous prions, nous lui demandons, Seigneur, aide-nous à réussir. Lui dit non, médite la parole jour et nuit, tu réussiras. Donc, voilà le schéma de Dieu. Jésus dit, je médite la volonté de Dieu pour moi. Je médite. Mais il y en a qui ne méditent pas la volonté de Dieu pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils méditent leur propre volonté pour eux. J'aimerais bien être prophète. J'aimerais bien être un musicien. J'aimerais bien. Maintenant, ils viennent présenter ça à Dieu. Allez, fais de moi un bon musicien. Ils viennent à Dieu, allez, donne-moi une bonne famille. Allez, Dieu, donne-moi de bons enfants. Dieu, mais donc tu n'as pas médité le projet de Dieu pour toi. Comment voudrais-tu que le Seigneur agisse? Le Seigneur agit dans sa volonté. C'est pourquoi nous avons besoin de méditer sa volonté. Plus on est dans sa volonté, plus nous allons connaître le succès dans toutes nos entreprises. C'est écrit, bien-aimé. Et beaucoup se posent des questions sur ce qui leur arrive. Beaucoup se posent des questions sur les échecs, sur les blocages. Mais la réponse est simple. Est-ce que tu médites la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu médites cette volonté à travers la parole? Est-ce que tu t'intéresses à la parole de Dieu pour la lire avec sérieux, dans le but vraiment de pratiquer ce qui est écrit? Si tu ne le fais pas, tu sais là où tu seras retrouvé? Dans la distraction. La distraction, c'est quoi? C'est qu'il y a un ennemi qui va te faire penser qu'aux choses de la terre. Et c'est ce que le diable va faire. Il va vraiment te distraire. Il va te poser des problèmes qui ne concernent pas Dieu. Parce que ton attention n'est pas captée par Dieu, n'est pas captée par la parole de Dieu. Le diable peut te poser des problèmes que toi tu croiras logiques. Mais en réalité, si tu viens vraiment à la méditation de la parole, tu vas trouver que c'était des problèmes qui étaient illogiques, qui étaient inutiles. Mais, puisque tu n'es pas en connexion avec Dieu, il va faire que ces problèmes-là deviennent intenses pour toi, très importants pour toi, puissants pour toi, tout simplement parce que tu as négligé son conseil. Tu as négligé la marche de Jésus. Jésus-Christ marchait avec Dieu. Il vivait avec Dieu. Il n'était pas dans une religion. Beaucoup d'entre nous, sont dans une religion. Ils ne vivent pas avec Dieu, ils ne marchent pas avec Dieu. Ils viennent parce qu'ils se sentent chrétiens, donc on doit prier. Mais marcher avec Dieu, c'est quoi? C'est réagir à chaque instant selon la volonté de Dieu, dans les situations que retrouve à la maison, au travail, partout. C'est méditer, même là où tu es embauché, à ton travail, tu as un rôle. Dieu attend quelque chose de toi. Ce n'est pas forcément parler comme un grand évangéliste, mais tu as un rôle. Il faut le méditer, ce rôle. Tu ne peux pas être là, aller au travail, faire comme si c'était une parenthèse et rentrer chez toi. Non, ça ce n'est pas marcher avec Dieu. Dieu veut qu'on marche avec lui, qu'on médite avec lui, qu'on pense à lui, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce que dans la situation dans laquelle il nous a placés, qu'est-ce qu'il attend de nous. Il veut qu'on réfléchisse. Et quand on va réfléchir à cela, nous allons recevoir des réponses. Et quand on va recevoir des réponses, si on obéit à ces réponses-là, qu'est-ce qui va se passer? Toutes nos entreprises vont réussir. C'est ce qu'il dit dans Josué 1:8. Ainsi, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Nous, on oublie de méditer avec Dieu. On oublie de réfléchir avec lui. On se concentre sur nos entreprises et elles traînent, elles rament. Pourquoi? Parce que nous oublions celui avec qui nous devrions marcher, aux côtés duquel nous devrions marcher. Il faut qu'on marche avec Dieu chaque jour, qu'on l'intéresse à tout ce que nous faisons et qu'on s'intéresse à sa volonté pour nous dans tout ce qui nous arrive, partout où nous sommes, à n'importe quel moment. Nous avons, c'est ça le but pour lequel Dieu nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés juste pour faire partie d'une religion et venir répondre à l'appel, pointer comme on dit dans des entreprises, venir pointer. Tu viens pointer le vendredi, tu viens pointer le mardi, tu viens pointer le dimanche. Non, il ne te demande pas de pointer, il te demande de marcher avec lui, de savoir pourquoi tu chantes, pourquoi tu prêches, pourquoi tu as tel ministère, pourquoi y réfléchir, pourquoi je suis chrétien, pourquoi je suis dans cette assemblée. Qu'est-ce que je viens faire? De se poser aussi la question quand nous venons au culte, je vais faire quoi? Il faut se poser aussi ces questions-là. Je vais faire quoi? Et parfois, tu vas voir que finalement, tu partais parce qu'il faut partir. Et quand tu vois cela, tu corriges le tir, tu dis, Seigneur, je ne vais pas parce que je dois partir, je vais maintenant pour t'adorer. Et quand tu arrives, tu trouves 4 personnes, puisque tu t'étais préparé, tu avais médité avec Dieu, ça ne te gêne pas. Mais quand tu viens pour venir, eh bien, quand tu arrives, eh bien, il suffit que quelqu'un te regarde de travers. Eh bien, tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu étais venu. Tu saurais pourquoi tu étais venu. Quand quelqu'un regarde de travers, tu dirais, ah, merci Seigneur, je vais m'humilier. C'est vraiment une adoration pour toi parce que je suis venu t'adorer. Parce que tu as médité ça. Si tu ne médites pas ça, ben, le diable peut te distraire et tu vas te concentrer sur des choses inutiles. Et pour te rendre compte que c'est vraiment inutile, ça demandera du temps, bien-aimé. Ça demandera du temps, ça demandera de s'humilier encore. Il faut méditer le pourquoi, le comment avec Dieu, ici sur terre. Dieu nous a sauvés pour qu'on marche avec lui. On ne peut pas marcher avec quelqu'un comme si c'était un pneu, une roue de voiture. Donc tu conduis ta voiture, tu ne vois même pas la roue, mais elle est collée à toi, puisqu'elle est collée à la voiture. Donc tu es ensemble avec les roues de voiture, mais tu ne les vois même pas. Dieu ne veut pas être comme cela avec pour nous. Il veut être un partenaire, il veut être un père, il veut qu'on médite le pourquoi. Et il y a je vais donner quelques points qui peuvent nous aider chaque jour à marcher avec Dieu. Le premier point, lui-même dit, quand vous priez, Jésus-Christ avant de partir, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est le premier point. Il dit, dites notre Père. Le premier point pour lequel tu as été sauvé, un des points, c'est peut-être pas le premier, mais un des points importants, c'est que tu puisses vivre désormais avec Dieu comme étant ton Père. Est-ce que tu vis comme cela? Beaucoup vivent avec Dieu comme étant seulement le Maître, mais ils ne vivent pas avec Dieu comme étant leur Père. Il se réveille le matin, il commence à pleurer pour tout et pour rien, à chercher les solutions pour tout et pour rien. Mais si seulement tu savais que Dieu était ton Père, est-ce que tu t'inquiéterais? Est-ce que la vie telle que tu la mènes chaque jour, est-ce que tu la mènes comme si Dieu était ton Père? Et ce n'est même pas comme si, puisque c'est la réalité. Tu n'as pas inventé ça, c'est écrit dans Jean 1:12. Donc, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est écrit dans Romains 8, 14 à 17, c'est que nous avons été adoptés, nous sommes maintenant des fils et filles de Dieu. C'est écrit, ce n'est pas toi qui inventes ça, c'est Dieu qui le dit en ta faveur. Et ton Seigneur, ton Sauveur te dit, quand tu pries, dis notre Père. Bien-aimé, Jésus nous parle, dit, mais dites notre Père. Ne priez pas en disant Dieu, Dieu seulement. Non, c'est ton Père. Et puisque c'est ton Père, ça va jouer sur ta vie de tous les jours. Ça va jouer. Tu ne pourras pas tomber dans des crises inutiles. Alors que tu as celui-là comme Père, tu ne pourras pas t'inquiéter par rapport au problème de loyer, problème de nourriture, qu'est-ce que tu mangeras? Parce que celui qui a fait les pommes, qui a fait les arbres, qui a fait les animaux, c'est celui-là qui est ton Père. Tu ne pourras pas t'inquiéter par rapport à ton patron, puisque la Bible dit dans Proverbe 21:1, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, il incline où il veut. Donc, et maintenant ce roi-là, c'est ton Père. Je crois que si réellement tu penses à cela, tu médites cela, ta journée prend déjà un autre élan. Puisque c'est ton Père, il sait ce dont tu as besoin. Puisque c'est ton Père, il peut te pardonner ce que tu penses que c'est impardonnable. Lui, il peut pardonner cela, puisque c'est le Père. Le Seigneur veut vraiment qu'on y pense, qu'on médite cela. On ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu se révèle. Il se révèle pour qu'on se saisisse de la révélation, pour que ça nous fasse marcher. Et dans Jean 12, Jésus, quand il était déstabilisé, il dit, Seigneur, oulala, est-ce que je dois reculer? Non, je vais y aller puisque je suis venu pour cela. Et il dit, Père, glorifie ton nom. La Bible dit qu'une voix est descendue du ciel pour dire, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et ça a fortifié le Seigneur Jésus. Mais Jésus a dit, cette voix a parlé pour vous, afin que vous ayez la foi. Les disciples qui étaient autour, quand ils allaient voir Jésus-Christ mourir, ils devront se rappeler, mais nous avons entendu la voix du Père dire, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Ça devait avoir comme objectif les calmer. Jésus-Christ, à plusieurs reprises, il a prévenu ses disciples qu'il allait être crucifié, qu'il allait souffrir. C'était pour qu'ils méditent cela. Donc Dieu nous parle pour qu'on médite, pour qu'on y pense. Et au moment des événements, on peut tenir bon. Mais si on est distrait, on vient, on écoute, on dit, mais ça a été une bonne prédication. On vient, on lit la parole, on dit, oui, j'ai fait mon devoir de lire la parole. Non, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu veut vraiment qu'on marche avec lui. On médite et ça nous aide à marcher. Dieu est notre Père. Et c'est le fait qu'il soit notre Père, c'est quelque chose d'extraordinaire qui devait nous réjouir, nous apaiser et nous donner la joie, la paix, marcher, le cœur apaisé. Puisque Dieu qui a fait les cieux et la terre, c'est ton Père. Et mieux encore, Dieu qui a fait le ciel et la terre, il t'a pardonné par la mort de son Fils. Donc tu peux venir lui dire, demander pardon. Tu peux, lorsque tu es tombé, revenir à lui. Parce qu'il nous donne la parabole du Père avec le Fils perdu. Nous avons des éléments de la Bible qui nous décrivent Dieu comme un Père, mais un bon Père. Et quand on a cette grâce-là, profitons-en, ne marchons pas comme des orphelins, ne marchons pas comme des gens qui sont sans protection, qui hésitent. Non, Dieu est notre Père, c'est très important. Et à la suite, Jésus dit, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est l'adoration. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions l'adorer. Adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est. Pourquoi nous l'adorer? Parce que nous seuls, nous le pouvons. les autres humains ne peuvent pas savoir qui est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un qui est impur. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Les gens impurs peuvent voir les œuvres de Dieu, mais pas Dieu lui-même. C'est ça la différence. Nous, nous pouvons contempler Dieu parce qu'il nous a purifiés par le sang de Jésus. Et donc nous pouvons, par conséquent, l'adorer, reconnaître ce qu'il est, éternel, tout-puissant. Parce que ce sont des choses qu'on reçoit par l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas des choses qu'on reçoit par la vue, mais par l'Esprit de Dieu. Reconnaître qu'il est fidèle, reconnaître qu'il est amour, reconnaître qu'il est bon. Toute la nature de Dieu, reconnaître qu'il est juste. Parce que quand on voit, nos yeux peuvent voir des gens mourir, des gens assassinés. Mais notre cœur, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, nous dit, malgré tout ça, Dieu est juste. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses que nous pouvons faire, entre autres l'adoration, qu'un païen, un impur ne peut pas parce qu'il n'a pas reçu cette grâce-là. Seul nous, les sauvés, nous pouvons adorer Dieu, reconnaître ce qu'il est vraiment. Seuls nous pouvons. Alors quand tu te lèves le matin, pense à cela, que si on m'a sauvé, c'est parce que pour que j'aie la capacité d'adorer Dieu, car les autres ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour adorer Dieu? Et là, la journée commence. C'est moi qui dois marquer la différence parce que les impurs ne peuvent pas adorer Dieu. Ils peuvent le louer, mais ils ne peuvent pas l'adorer. Ils peuvent reconnaître ses hauts faits. Ils peuvent reconnaître la beauté du soleil, la beauté de la lune, la beauté des étoiles, mais ils ne peuvent pas adorer Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Moi, j'ai eu la grâce de le connaître. Maintenant, je me lève. Quelle est ma mission aujourd'hui? C'est adorer l'Éternel. C'est ça, bien-aimé. Nous devons méditer le pourquoi de notre salut, le pourquoi de notre état. Méditer chaque jour, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et quand on se lève, on pense, le Seigneur veut que je l'adore. Il veut que moi je dise ce que les autres ne peuvent pas dire parce qu'ils ne peuvent pas voir Dieu. Mais moi, je peux voir Dieu à travers sa parole avec les yeux de la foi. Je peux le voir, je peux le contempler et dire ce qu'il est. Et là, le Seigneur va nous conduire à la prière. À tout moment, il va nous conduire à l'observation parce que nous avons discerné, nous avons médité quel est notre rôle. Notre rôle, c'est adorer Dieu. Et maintenant, quand viendront des situations en réalité, qui ne sont pas des situations difficiles, mais qui sont des situations voulues de Dieu pour qu'on l'adore, quand viendront ces situations, on va l'adorer. Mais pour quelqu'un qui n'a pas médité sa relation avec Dieu, le pourquoi, du comment, qui n'a pas pensé à tout ça, dès qu'une situation difficile vient, mais la personne est perturbée par la situation et médite la situation au lieu de méditer Dieu. C'est ça le problème. Et Dieu nous dit, si vous méditez avec moi, si vous méditez ma pensée pour vous, ma volonté pour vous, les situations qui paraissent pour vous insurmontables vont être des sujets d'adoration, vont être des moyens pour vous de vous humilier devant moi. Puisque l'adoration, c'est s'humilier aussi devant Dieu, reconnaître qu'il est Dieu. Et pour le reconnaître, il faut s'humilier, reconnaître que nous, on est petits, c'est lui qui est Dieu. Et c'est pourquoi nous avons été sauvés. Les païens se croient eux-mêmes Dieu. Dans leur comportement, ils disent des phrases du genre « c'est ma vie ». Donc pour eux, ils sont Dieu déjà eux-mêmes. Donc ils ne peuvent pas adorer Dieu. Donc c'est lié à l'orgueil qu'ils ont. Mais nous, puisque nous avons reçu cette grâce, on peut s'humilier devant une situation difficile, dire « Seigneur, malgré le fait que ça ne va à contresens de ce que je veux, mais je sais que tu es Dieu, tu ne te trompes pas. » Ça, c'est l'adoration. Tu reconnais une qualité de Dieu que le Saint-Esprit a placée dans ton cœur à travers la parole. Tu ne te trompes pas. Je t'aime malgré ce qui vient d'arriver. Mais pourquoi? Parce que tu médites qui tu es. C'est important. Il y a des moments où tu veux réagir. Nous arrivons à un troisième point, le problème du péché. Si nous avons été sauvés, c'est pour vivre sans péché, bien-aimé. C'est pour vivre sans péché. C'est que nous ne pouvions pas avant. Avant, nous étions condamnés. maintenant que nous sommes sauvés, c'est pour vivre sans péché. Et donc, il y a des situations qui vont arriver où tu te dis, là, j'ai presque le droit de tomber. Mais quand tu médites, tu te souviens, mais non, si j'ai été sauvé, c'est justement pour ne pas tomber. Ah, tu te réveilles. Jésus-Christ, dans Jean 12, il s'est dit, mais ah, j'ai presque le droit de m'arrêter parce que ça va être trop dur pour moi. Mais il s'est dit, mais tiens, mais si je suis venu sur la terre, c'est justement pour souffrir. C'est justement pour être martyrisé. C'est justement pour être maltraité. Quand il a pensé à ça, il a dit, bon, je me laisse faire. Je me laisse faire. Mais à un moment, il a hésité à Gethsémané pareil. Il a dit, Seigneur, si tu peux ôter cette coupe. Mais il s'est dit, mais non, mais je suis venu pour ça. Autant demander la force pour que je tienne. Et nous, en tant que chrétiens, il y a des moments où c'est très facile de pécher. Mais quand tu es quelqu'un qui médite avec Dieu, que tu penses avec Dieu, tu te dis, mais ah, mais justement, si j'ai été sauvé, ce n'est pas pour pécher. C'est justement pour que je ne pêche pas. Autant demander la force de Dieu pour tenir et ne pas pécher au lieu de céder. Parce que ce serait sortir de ma mission, sortir de la volonté de Dieu. C'est très important, bien-aimé, de méditer pourquoi je suis chrétien. Pourquoi ? Si je suis chrétien, c'est justement pour démontrer qu'on peut être créé, qu'on peut exister dans ce monde sans péché. On peut vivre dans ce monde sans péché. Et donc, quand on médite, on reçoit la force, on reçoit les idées de prière et on peut prier, Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout. Mais nous avons besoin de méditer avec Dieu. Nous commettons l'erreur de méditer ce que nous voyons avec nos yeux, alors que Dieu veut que nous méditions sa nature, qu'on médite sa volonté, sa pensée pour nous. Plus on sera dans cela, et bien comme dit Josué 1:8, nous réussirions dans toutes nos entreprises. Jésus-Christ a médité. Dans Jean 4, il dit, je médite la volonté de celui qui m'a envoyé. Je médite comment je vais faire son œuvre. Il faut réfléchir à cela. C'est très important. Moi, je vois même parfois, il y a des gens qui sont engagés dans une équipe, mais ils ne méditent même pas le travail de cette équipe-là. Donc, quand c'est l'heure de rencontre de cette équipe, ils viennent parce qu'ils sont engagés. Mais à la maison, ils ne méditent pas. Ils ne pensent pas à cette équipe. Ils ne pensent pas à qu'est-ce qu'on attend de moi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi. Malheureusement, il y a des équipes où tu vas te dire, mais oui, mais là, je vais méditer quoi. Bien-aimé, il y a toujours de quoi méditer avec Dieu. Tu vas dire, mais oui, mais dans l'accueil, je vais méditer quoi. Il y a de quoi méditer. Dieu peut t'inspirer de commencer à prier pour toutes les personnes auxquelles tu ouvres la porte pour entrer. Parce qu'il y a du travail à faire. Bien-aimé, il y a du travail dans tous les niveaux de l'œuvre de Dieu. Il suffit seulement de méditer. Il suffit seulement de se placer devant Dieu, de dire, qu'est-ce qui vraiment il attend de moi? Et Dieu te parlera. Dieu peut te dire, et il peut te dire, aujourd'hui je te oins. Toutes les personnes que tu salueras en les faisant entrer, il y a quelque chose qui va se passer dans leur vie. Donc il y a plein de choses que Dieu peut faire avec chacun de nous. Mais il faut qu'on médite notre relation avec lui. Il faut qu'on médite notre appel. Il faut qu'on médite notre mission. Il faut réfléchir avec lui. C'est très important. Et si on le fait, il nous parlera. Et si on respecte ce qu'il dit, nous verrons vraiment la gloire de Dieu se manifester. Josué 1:8 va s'accomplir. Nous réussirons dans toute notre entreprise. Et Jésus-Christ passait son temps à méditer avec Dieu. C'est pourquoi parfois il priait toute la nuit. Parce qu'il lui fallait méditer, discuter, se rappeler la mission. Tout le temps, il fallait ça. Il fallait ça. C'est important. Beaucoup de gens, puisqu'ils sont dans la routine, ils ne méditent plus ce qu'on est en tant que chrétien. Ils ne méditent plus la mission de Dieu pour nous. Il ne médite plus tout ça. Il s'ennuie. Moi, je dis, on ne peut pas s'ennuyer dans l'œuvre de Dieu. On ne peut pas s'ennuyer avec Dieu. La Bible dit que Dieu se renouvelle. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Il est infini. 2 Corinthiens 3, 17 à 18, l'apôtre Paul dit que nous qui contemplons Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, on ne peut qu'aller de gloire en gloire. On ne peut pas s'ennuyer. Si on s'ennuie, c'est qu'on manque de temps de méditation avec Dieu, de temps de prière où on cherche la volonté de Dieu, on cherche sa face. On ne peut pas s'ennuyer avec Dieu. Donc il y a des gens qui tombent dans la nuit, qui tombent dans la routine, certainement parce qu'ils s'intéressent beaucoup plus à leurs difficultés, ils s'intéressent beaucoup plus à leurs désirs, ils s'intéressent beaucoup plus à leurs propres projets qu'à Dieu lui-même, qu'au projet de Dieu pour eux. Il y en a qui peuvent mettre 10 ans, 12 ans à chercher la solution à un problème. Ils importunent Dieu, ils embêtent Dieu. Mais le jour où ils vont seulement, pendant un mois, chercher Dieu, ils vont voir la solution que Dieu va manifester puissamment. Parce que Dieu est avec ceux qui marchent avec lui. Quand tu marches avec Dieu, donc je ne parle pas comme celui qui conduit une voiture, il ne voit pas les roues. Je ne parle pas de ça, je marche vraiment avec Dieu, parler avec lui, travailler avec lui. Quand on marche avec Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Forcément, nous avons été sauvés, non seulement pour vivre sans péché, nous avons été sauvés aussi pour être des héritiers de Jésus-Christ. Des héritiers, c'est écrit dans Romains 8, 17, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers avec Jésus-Christ. Héritier, ça veut dire quelqu'un qui devient le gestionnaire des biens de son père. C'est ça un héritier. Alors vous vous imaginez que, donc si nous sommes héritiers, puisque cette terre appartient à notre père, eh bien c'est à nous de gérer cette terre. Quand quelqu'un pense à des réalités comme ça, il ne se laisse pas faire. Hein. Quand parfois on fait des moments d'évangélisation, bien des projets par rapport au pays, par rapport à la Normandie, il y en a qui trouvent ça des projets trop grands. Mais moi, je trouve ça pas du tout grand. Parce que je me dis, c'est nous qui sommes responsables de la terre, puisque nous sommes les héritiers de Dieu, les héritiers de, les co-héritiers avec Jésus-Christ. Donc, on n'a pas à croire que cette terre appartient à quelqu'un d'autre. Cette terre appartient à notre Père et il nous a fait héritier des choses spirituelles. Nous devons nous travailler jusqu'à ce que ces choses spirituelles se manifestent. On ne peut pas reculer, on ne peut pas avoir peur d'un président, on ne peut pas avoir peur de l'incrédulité des gens ou bien des magicien. On ne peut pas, puisque c'est nous, sur nous que Dieu a mis l'autorité. Il dit, vous êtes des héritiers. Donc nous héritons de la même autorité que Jésus en tant que corps, nous héritons de cette autorité. Jésus avait autorité, il a dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'est donné. Il avait autorité sur les forces démoniaques. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc on ne peut pas, si on apprend que dans telle ville, c'est la ville... Comme j'apprends sur Évreux, c'est la ville, il y a environ 70% au moins de sorciers là-bas. Mais ce n'est pas notre problème. Si Dieu nous envoie en mission à Évreux, nous allons travailler tranquillement. C'est les sorciers qui vont, s'ils doivent déménager, ils vont déménager. S'ils doivent mourir, ils mourront. Mais nous, on va continuer notre chemin parce que c'est nous qui avons l'autorité, bien-aimés. C'est ça, parce que nous sommes héritiers. Jésus-Christ ne reculait pas. Il marchait, il avançait. Et on lui a dit, mais César te cherche. Il a dit, dites à ces renards-là, j'ai 2 jours à bosser et je fais mon travail. À la fin, on se retrouvera. Mais ce n'est pas maintenant qu'il mourra. C'est clair. Voilà. César, c'était l'empereur. Il dit, dites-lui. J'ai encore du temps à travailler. Qu'il soit roi, qu'il soit empereur, ce n'est pas mon problème. C'est moi qui ai l'autorité. Je suis le fils de Dieu. C'est moi qui règne. Voilà, bien-aimés. Dieu nous a donné cette autorité parce que nous sommes héritiers avec Jésus-Christ. Marchons dans cette logique-là. Un problème survient dans la famille. Ah, tu apprends que quelqu'un, on l'a ensorcelé. Quelqu'un a fait un accident. Tu tiens seulement ta tête, tu pleures. Mais non, mais qui a l'autorité? C'est toi qui as l'autorité. Tu vas dans la prière, tu dis, Seigneur, je décide que le complot des mauvais soit détruit. Voilà, c'est toi qui gères. C'est toi qui as reçu l'autorité. Tu es héritier avec Jésus. 1 Jean 3, 8 dit, le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Donc tu ne peux pas, toi, reculer en voyant les œuvres du diable se manifester. Et même si ces œuvres-là paraissent extraordinaires, il ne faut pas suivre tout ça. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, il y a des sœurs chrétiennes philippines qui travaillaient dans le palais royal en Arabie Saoudite. Vous savez, les Saoudiens disent que l'Arabie Saoudite est un pays dans une mosquée. Voilà. Donc, c'est islam à fond. Mais les Philippines, c'était des servantes philippines, c'était des chrétiennes. ben elles encadraient les enfants du roi d'Arabie Saoudite. Et en les encadrant, elle leur faisait lire en même temps la Bible. Vous imaginez quel risque elle prenait. Donc là, on t'attrape, c'est la tête qui est coupée. Mais comme elles savaient dans leur tête, mais qui est le vrai chef? C'est Jésus. Et qui a parlé dans leur cœur? C'est l'esprit de Jésus. Ils vont obéir à qui? À Jésus. Vous savez, même si ces Philippines-là avaient demandé à leur pasteur, « Pasteur, on sent qu'on doit parler aux enfants du roi des textes des évangiles. » Je crois que le pasteur aurait dit, « Soyez sages, réfléchissez encore. » Parce que vous êtes en Arabie Saoudite, c'est chez le roi même, lui-même, donc le garant de la religion. Vous savez, déjà au Maroc, le roi, c'est le commandeur des croyants. Alors en Arabie Saoudite, c'est comment? Donc chez le roi même. Mais ces servantes-là donnaient l'évangile aux enfants. Et quand ils ont été découverts, elles ont été découvertes, eh bien on n'a pas cherché à les tuer, mais on a voulu les expulser d'Arabie Saoudite. Les enfants du roi ont pleuré. Le roi a cédé. Jusqu'aujourd'hui, elle travaille encore là. Bien-aimé, si tu médites avec Dieu, tu sauras qui tu es. Il te dira, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Même si tu traverses des fleuves, ils ne te submergeront pas. Le feu ne te consumera pas. Mais il faut que tu médites avec lui. Il faut que tu médites sa pensée pour toi. Il faut que tu y réfléchisses. Il faut que tu y penses. Cesse d'être une goutte d'eau dans la mer. Non, tu n'es pas une goutte d'eau dans la mer. Tu as l'esprit de Jésus en toi. Co-héritier avec Jésus. Et une seule personne comme toi est beaucoup plus efficace que 10 000 personnes qui sont dans la routine. Dieu cherche des gens qui vont marcher avec lui. Et une seule personne qui marche avec Jésus est plus efficace que 10 000 personnes qui sont dans la routine mais qui remplissent les églises. Dieu cherche une seule personne. Jésus-Christ, à lui tout seul, il a sauvé l'humanité. L'apôtre Paul, avec la grâce que Dieu avait mise dans sa vie, eh bien, il a touché tout un continent. En marchant à pied. Les gens, les pierres, avec la grâce que Dieu leur avait donnée, ils ont touché tout leur pays et les pays environnants en marchant à pied. Parce qu'ils savaient qui ils étaient. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Ils savaient qui il était, mais pourquoi, comment ils savaient? Parce qu'ils méditaient, ils avaient du temps avec Dieu pour savoir pourquoi j'existe. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Mais aujourd'hui, beaucoup passent plus de temps à dire à Dieu, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une promotion, j'ai besoin du travail, ma santé, mes enfants, ceci, cela. Mais Dieu dit non, méditez, pensez à moi d'abord. Méditez avec moi ma pensée pour vous. Prenez la Bible, cherchez ma pensée pour ce monde. Et je veux clôturer par le dernier point. Le Seigneur dit dans Matthieu 28, le dernier point que j'ai décidé de donner. Mais il y a d'autres points encore. Il dit dans Matthieu 28, à 18 à 20, tout pouvoir m'est donné. Je vous envoie vous aussi, allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà notre rôle. Si nous existons sur terre en tant que chrétiens, c'est pour que nous servions à cet objectif suprême, sauver l'humanité entière. Méditons cela. Chaque matin, pose-toi la question, aujourd'hui mon rôle c'est quoi par rapport au salut de l'humanité? Et le Seigneur va te dire, ton rôle aujourd'hui c'est de prier. Pour tel pasteur, de prier pour tel frère, parce que j'ai besoin de lui pour telle mission. Il te dira, ton rôle aujourd'hui, c'est de faciliter le transport à telle personne qui doit aller prêcher à tel endroit. Voilà ton rôle. Nous devons méditer avec Dieu, savoir pourquoi. Pourquoi je me lève aujourd'hui le matin? Parce que certains sont morts. Si moi je me lève aujourd'hui, c'est que Dieu a besoin de moi pour quelque chose. Méditons ça. Parce que si Dieu n'a plus besoin de moi, il m'enlève. Il m'amène. Il m'enlève. La Bible dit dans Genèse 5, Enoch a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. C'est une phrase puissante. Il a marché avec Dieu à tel point que Dieu l'a enlevé. Donc je crois qu'il a fusionné avec Dieu physiquement sur la terre. Donc Dieu ne pouvait plus le laisser sur terre parce qu'il était déjà comme Dieu. Il a pris. Il a pris. Puisqu'il a fusionné avec Dieu. Bien-aimé, nous ne connaissons pas les conséquences de tout ça. Mais je crois qu'il y a une grande conséquence du fait qu'Enoch avait marché avec Dieu. Il y a une très grande conséquence spirituelle que nous ne savons pas. Il y a une très grande conséquence parce qu'une personne qui marche avec Dieu, Dieu l'utilise, même si, qu'il s'en rende, même si elle ne se rend pas compte, Dieu l'utilise. À partir de lui, il devient une antenne pour le monde de Dieu. Quand Dieu descend sur la terre, il fait un atterrissage sur cette personne-là et il commence à agir parce que c'est un ami de Dieu. C'est un réceptacle, un récipient pour la gloire de Dieu. Même si cette personne ne sait pas, mais au ciel nous aurons des surprises. Ceux qui ont marché avec Dieu, on les verra tout près de Dieu. Même si apparemment ils étaient insignifiants aux yeux des humains. Mais il y a des gens qui bougent. Mais pour eux-mêmes, en utilisant le nom de Dieu. Et au ciel aussi, on aura des surprises par rapport à ces gens-là. Dieu cherche des gens qui vont marcher avec lui, qui vont méditer le pourquoi de leur salut, le pourquoi de leur existence. Pourquoi tu es noir? Pourquoi tu es blanc? Pourquoi tu es africain? Pourquoi? Il y a un but. Du moment que tu es sauvé, tout ce qu'il y a dans ta vie, il y a un objectif. Il faut penser à tout ça. Peut-être tu n'auras pas la réponse aujourd'hui, mais il faut y penser. Dieu ne veut pas marcher avec des gens qui sont comme des roues. Il veut parler avec nous, marcher avec nous, travailler avec nous. C'est très important de réfléchir sur lui, de méditer. Et quand on médite, Dieu nous parle, il nous corrige et sa gloire se manifeste. Voilà ce que j'avais prévu de parler, de dire. Dieu veut qu'on marche avec lui. Chaque jour, qu'on médite sa pensée pour nous et nous réussirons dans toutes nos entreprises. L'objectif de Dieu s'accomplira. Les gens seront sauvés. Le nom de Dieu sera élevé. Parce qu'on n'hésitera pas. Il y a quelqu'un qui m'a vu avec le basket, c'est écrit « Jésus sauve ». Moi, j'ai dit « Frère, laisse tomber. » Moi, je suis conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix. Alors, je ne vois pas qui va m'arrêter. Donc, ça ne sera pas non seulement le basket, ça sera tout. Je vais écrire « Jésus sauve, Jésus, gloire à Dieu ». Ce n'est pas mon problème, tout ce que les gens peuvent dire. Donc, je ne me sens pas ici sur terre. Je sais que je suis de passage. Le but de Dieu, c'est qu'il se serve de mon corps, qu'il se serve de ma bouche, qu'il se serve de moi pour que son nom soit glorifié. J'ai dit, je sais ce que Jésus a souffert pour moi. Alors je ne vois pas en quoi mettre Jésus sauve quelque part. C'est important. Et peut-être certains vont dire, mais oui, mais je travaille trop pour Dieu, mais moi, je me dis toujours, je n'ai pas encore fait suffisamment pour lui. Quand je pense à ce que lui l'a fait pour moi, je me dis que je suis en retard. Je suis en retard. C'est parce que je médite sur lui. Je médite sur son œuvre. Et je me dis, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour lui alors maintenant? Comme Paul avait posé la question, Seigneur, que dois-je faire? Maintenant que j'ai compris que tu me sauves, tu te révèles à moi, que dois-je faire? Bien-aimé, je suis en train de lire un livre, mais qui montre comment Satan trompe les gens. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Et quand je lis ça, ça m'énerve de voir que des gens croient à n'importe quoi à ce niveau-là. J'ai dit, mais merci Seigneur, parce que la Bible est tellement simple et tu nous as fait la grâce de la voir. Parce que ces gens-là qui se disent intellectuels, ils sont dupés comme des bébés de 2 ans. Je ne peux pas comprendre. Mais vraiment, l'intelligence pour connaître Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Parce qu'il y a des choses, vous lisez, vous dites, mais comment cette personne peut croire que faire telle chose, ça va lui donner une puissance? Comment tu, c'est, je ne comprends pas. Mais oui, Jérémie 9, 23, 24 dit que celui que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que l'homme fort ne se glorifie pas de sa force, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence pour me connaître. Moi, l'Éternel, qui fait justice et bonté, à qui je veux bien aimer. C'est vrai, connaître Dieu, c'est un cadeau impressionnant. Quand on voit ce que les gens font, quelqu'un qui vous dit, mais vous, peut-être, vous vous réveillez avec le goût de vouloir manger une nourriture, mais moi, je me réveille avec l'envie de boire du sang. Voilà certains où ils en arrivent. Mais toi, tu es là tranquille, tu te lèves le matin avec l'envie d'une omelette. Mais quand tu ne médites pas avec Dieu, tu ne peux pas savoir que cette envie d'omelette, c'est un cadeau immense. C'est un cadeau immense. Il y en a qui se réveillent avec l'envie de te tuer. Mais toi, tu te réveilles avec l'envie de courir. Mais c'est un cadeau immense. Mais il faut méditer, il faut penser à ces choses pour se réveiller et dire non, Seigneur, je te livre ma vie. Fais de moi un instrument d'adoration. Fais de moi un intercesseur. Fais de moi quelqu'un qui va être un support pour l'évangélisation. Fais de moi quelqu'un qui va sauver ma famille, parce que je suis héritier avec Jésus, c'est moi qui règne, c'est mes prières qui seront beaucoup plus efficaces que les désirs des satanistes de ma famille. Fais de moi quelqu'un qui sauvera mon pays. Je ne sais pas quel sera mon rôle, mais fais de moi quelqu'un qui participera à ce salut-là. Et Dieu va agir, mais il faut qu'on médite avec lui. Amen. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides, Seigneur, à mettre en pratique cette parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, imiter les gens pour imiter, chercher le succès que d'autres cherchent. Nous voulons te chercher, toi, Seigneur. Marcher avec toi comme Enoch a marché avec toi. Il a fusionné avec toi, alors qu'il était encore un terrien, Seigneur de gloire. Nous voulons marcher avec toi comme ton propre fils a marché avec toi, à tel point que tu as fusionné dans la montagne de la transfiguration. Il a été transfiguré tellement il marchait avec toi, Seigneur de gloire. Nous voulons marcher avec toi afin de recevoir ta pensée pour nous. Recevoir ta pensée chaque jour pour nous, Seigneur. Dans toute situation, dans tout événement, Seigneur. Et je crois que si nous méditons avec toi, Seigneur, nous aurons le dessus sur les tentations. Nous aurons le dessus sur les oppressions. Nous aurons le dessus sur l'orgueil, le dessus sur la mentalité de ce monde, Seigneur. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous. Aide-nous à méditer ta volonté, comme Jésus, c'était une nourriture carrément pour lui, Seigneur. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Nous venons, Seigneur, nous confier encore à toi, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons des instruments d'évangélisation, d'intercession, des gens qui vont prendre autorité contre les forces des ténèbres et les vaincre pour libérer les autres, Seigneur. Des gens qui vont vaincre le péché sous toutes ses formes. Même si le péché paraît séduisant, fort, puissant, mais Jésus, toi, tu l'as vaincu et tu nous as donné la même autorité. Alléluia. Merci, Seigneur.